Une véritable phobie du gluten s'est emparée de la planète depuis quelques années. Un nouveau phénomène qui semble prendre de l'ampleur, si l'on en juge par le nombre de produits sans gluten qui fleurissent un peu partout dans les rayons des magasins. Deux formes d'intolérance au gluten sont reconnues depuis longtemps. La maladie cœliaque et des formes plus simples d'allergie alimentaire. Mais quel crédit apporter à l'idée selon laquelle une partie importante de la population présenterait une hypersensibilité au gluten sans forcément le savoir? S'agit-il d'un phénomène de mode ou y a-t-il un fondement scientifique valable? Trois invités pour en parler cet après-midi. En studio, à mes côtés, Julien Vénesson et Christophe Cellier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue, Julien Vénesson. Vous êtes journaliste scientifique et auteur du livre « Gluten, comment le blé moderne nous intoxique » aux éditions Thierry Soucard. Vous montrez que de nombreuses maladies pourraient se soigner simplement en arrêtant de consommer des aliments contenant du gluten. Christophe Cellier, quant à vous, vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. On parlera principalement avec vous de la maladie cœliaque. Et puis, par téléphone, nous sommes depuis Toulouse avec Christian Rémézy. Bonjour à vous, Christian Rémézy.
Oui, bonjour.
Vous êtes nutritionniste et directeur de recherche à l'INRA et vous nous direz quels enseignements on peut tirer de cette phobie actuelle du gluten et si cela repose sur des effets avérés. Les messages des auditeurs arrivent déjà extrêmement nombreux sur le site de l'émission franceinter.fr et puis également sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'attaque. Vous y répondrez donc tous dans quelques minutes et puis nous retrouverons deux nouveaux candidats pour le quiz de la tête au carré dans la dernière partie. C'est Violaine Ballet qui réalise l'émission, dossier préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Axel Villard, comme tous les lundis, pour démarrer l'émission. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez avec nous sur la cérémonie de l'Ignobel, ou Ignobel, enfin comme on veut.
On le dit comme on veut.
Voilà, concours organisé par l'Université d'Harvard et qui récompensait donc vendredi dernier les sciences de l'improbable.
Et oui, les prix Ignobel ou Ignoble, hein, c'est un jeu de mots en anglais, qui fait référence au prestigieux prix Nobel. Le thème de cette cérémonie, comme chaque année depuis plus de 20 ans, c'est l'absurde et la célébration des sciences à la fois insolites et sérieuses. Oui. Avant de jeter un œil aux Ignobelisés 2014 et pour vous mettre un peu dans l'ambiance de la soirée, voici comment les organisateurs tordent le cou au long discours des scientifiques parfois barbants quand ils reçoivent des prix.
L'année dernière, nous avons eu quelques problèmes avec certains intervenants qui dépassaient largement leur temps de parole. Donc pour résoudre ce problème, veuillez accueillir mademoiselle Jolie Petite Crotte. Mademoiselle Jolie Petite Crotte, qui a 8 ans, s'il te plaît, montre-nous ce que tu feras quand un intervenant aura dépassé son temps de parole.
Arrêtez, s'il vous plaît, je m'ennuie. Arrêtez, s'il vous plaît, je m'ennuie. Arrêtez, s'il vous plaît, je m'ennuie.
Voilà, nous sommes
adorables.
Oui. On est tous très impatients d'entendre les sujets de recherche gagnants, en tout cas, Axel.
Alors, on va commencer par le prix Ignoble de neurosciences qui a été décerné à une équipe chinoise pour son travail sur la péridolie. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Péridolie. Péridolie. Absolument. Oui, oui, on en avait parlé. Ah. C'est le fait de trouver des formes dans les arbres, dans les nuages, par exemple.
C'est le fait de voir des visages humains un peu partout, sur des falaises ou dans des tranches de pain. Oui. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui voient le visage de Jésus dans des tartines de pain grillé? C'est le titre de la publication gagnante. La réponse avec Zhuang Gangliu, le premier auteur de l'étude.
Avez-vous déjà vu le visage de Jésus dans une tranche de pain grillé?
Non.
Celui d'Elvis dans une tortillasse? Ou votre oncle Bob dans les nuages?
Non.
C'est triste. Car c'est tout à fait normal. Si vous ne les voyez pas, c'est peut-être qu'il vous manque dans le cerveau une partie essentielle à une bonne imagination. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas d'imagination. Vous pouvez acheter un toaster qui grille des Jésus sur eBay pour moins de $49. Merci beaucoup.
Voilà, comment on peut parler de grille-pain et de neurosciences en même temps. Voilà. Alors, il y a l'autre prix, c'est en biologie, Axel.
En biologie, cette fois, c'est un laboratoire tchèque qui gagne pour avoir démontré que les chiens ressentent les variations faibles de la gravité terrestre. Vous me direz, rien de très loufoque là-dedans. Sauf que les travaux se basent sur l'étude de 1800 défécations et 5600 urinations canines en laboratoire qui ont permis de démontrer que nos meilleurs amis alignent systématiquement leur corps selon l'axe nord-sud pour faire leurs besoins. Moi, je dis bravo à cette étude-là.
J'ai observé mon chien tout à fait différemment maintenant grâce à vous. Et vous vouliez terminer par le prix de nutrition.
Oui, bien sûr. Il y a 10 gagnants. On ne va pas les détailler. Les 10 publications ici, vous pouvez les trouver sur le site. Mais je voulais quand même finir par un sujet qui va très certainement intéresser vos invités aujourd'hui. Le prix Ig Nobel de nutrition a été remis à une équipe espagnole pour l'analyse et la culture de bactéries lactiques présentes dans les selles de bébés dans le but de mettre au point des probiotiques en forme de saucisses fermentées pour faciliter la digestion du lactose. L'idée étant donc de permettre aux intolérants de pouvoir digérer correctement le lait en réintroduisant des bactéries qui les digèrent dans leur tube digestif. Il y a matière à débat, je pense, sur
ce plateau. Christophe Sellier, ça vous inspire, cette proposition très sérieuse, hein, parce que c'est pas de la blague.
Sérieux, c'est très sérieux.
Ah bah pourquoi pas, hein, la modification de la flore intestinale, c'est un grand topic.
Bon, bah en tout cas, il y a de grandes recherches qui sont faites dans ce domaine. Et ça s'est passé vendredi, Axel. Comme tous les ans, en prélude aux vrais Nobel qui vont arriver là dans quelques jours.
Et si vous voulez lire comment on glisse sur les peaux de banane, tout est sur le site de la Tête au Carré.
Et il y a la vidéo aussi de toute la cérémonie, qui est très sympa. Et vous verrez à quoi se prêtent les scientifiques, vraiment, qui sont quasiment tous déguisés. Et c'est vraiment un show à l'américaine.
Et qui viennent déconner.
Voilà, donc c'est sur franceinter.fr, sur le site de la Tête au Carré. Merci Axel, à la semaine prochaine.
À lundi prochain.
Dans un instant, donc, on décernera peut-être un Ig Nobel de nutrition à l'un de nos invités pour nous parler du gluten avec tous vos messages, franceinter.fr et le hashtag l'attaque. À coup de rêve, Ben l'oncle Saul sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Que faut-il penser de cette phobie du gluten qui semble donc s'être installée depuis quelques années chez bon nombre de consommateurs, puisque en dehors de l'intolérance au gluten et de la maladie cœliaque qui touche 1% de la population mondiale, de nombreuses personnes font l'expérience d'une amélioration nette de leur état de santé, paraît-il, en supprimant les produits à base de gluten. Un nouveau syndrome plus discret, donc, mais aussi beaucoup plus répandu, se serait installé, celui de l'hypersensibilité au gluten. Quelles sont évidemment les données scientifiques qui permettent de se faire une idée sur la question? On en parle avec mes invités, le journaliste Julien Véné, auteur donc de ce livre « Gluten, comment le blé moderne nous intoxique » chez Thierry Soucard Édition. Christophe Sellier, vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Georges Pompidou. Et puis depuis Toulouse, Christian Rémézy, nutritionniste et directeur de recherche à l'INRA. Toutes vos questions sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'attaque. Déjà beaucoup de courriels qui arrivent. Je vais essayer de vous transmettre le maximum de questions pour tenter d'être le plus complet possible sur ce dossier. Julien Vénesson, d'abord en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez été amené, vous, à vous intéresser à cette question du gluten, au point d'en faire un livre?
Il y a deux choses qui m'ont poussé à m'intéresser.
Il y a beaucoup de littérature d'ailleurs sur la question.
Oui, il y a beaucoup de littérature. Enfin, c'est relatif parce que par rapport à d'autres sujets, d'autres maladies, il n'y a quand même pas énormément de choses. Moi, ce qui m'a poussé à m'intéresser à cette problématique, c'est d'abord le parcours de ma mère il y a plus de 10 ans qui avait de l'arthrose, une arthrose assez sévère. On lui prévoyait des difficultés à se déplacer avec le temps. Et puis, on lui a conseillé de faire un régime sans gluten, sans produits laitiers, en lui disant que ça allait l'améliorer. Donc bon, comme elle était assez ouverte d'esprit, sans y croire trop, elle a fait le test, sachant que ça ne coûtait pas grand-chose. Et elle avait beaucoup moins de douleurs, etc. Et puis avec le temps, elle a continué. Et au bout de 10 ans, à la radio, en fait, toutes les lésions arthrosiques avaient disparu. Donc ça m'a quand même beaucoup interpellé.
Et elle a fait ce régime sans gluten pendant 10 ans ?
Tout à fait, et elle continue à le faire aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, moi, ce qui m'a aussi interpellé, c'était qu'effectivement, j'entendais un petit peu partout de plus en plus de gens dire le gluten, c'est pas bien, ça donne tout un tas de problèmes de santé, personne ne le digère, ça donne des maladies auto-immunes, etc. Et je voulais quand même comprendre, est-ce que c'était uniquement de la fabulation ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu réel derrière, un petit peu de scientifique, de prouvé, et qui pouvait nous permettre de conseiller à certaines personnes ou pas à d'autres de manger sans gluten.
Mais justement, pour votre maman, le lien était clairement établi entre l'arrêt du gluten et l'amélioration de son état de santé ou pas?
Ah bah,
qu'est-ce
oui,
que lui ont dit les médecins, par exemple?
Les médecins, en tout cas les médecins qu'elle a vus, pour eux, il n'y a pas de lien de cause à effet. Voilà. Donc maintenant, quand c'est des cas comme ça qui sont isolés, évidemment, on dit toujours c'est le hasard, ce n'était pas le gluten qui a fait que votre arthrose a guéri, on ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas ça.
Ouais.
Aujourd'hui, si elle remange du gluten, elle va avoir des douleurs qui vont revenir progressivement.
Ouais.
Donc elle a déjà fait l'essai. Donc,
en tout cas, si on vous lit, vous êtes quand même assez catégorique, puisque vous dites bien qu'en arrêtant le gluten, on peut se soigner de quasiment tout.
Non.
En tout cas, de beaucoup de choses, et même des choses assez inattendues d'ailleurs. De maladies auxquelles on peut ne pas s'attendre forcément dans un livre comme ça, mais en tout cas, vous prenez le sans gluten, très clairement.
Oui, en tout cas, au moins, je prône le moins de gluten déjà. Et puis, pour certaines personnes qui ont des symptômes, on va en parler, suggestifs d'un problème lié au gluten, effectivement, je conseille le sans gluten, parce que comme on va le voir, c'est pas quelque chose de dangereux à faire, c'est quelque chose qui coûte rien. Donc pourquoi ne pas laisser ? Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des symptômes divers et variés, qui n'ont pas de réponse par la médecine classique, parce que la médecine n'est pas toute puissante, elle ne sait pas tout. Et parce qu'il y a peut-être un manque d'intérêt pour la nutrition aujourd'hui, eh bien, il y a des choses, des solutions qu'on peut apporter dans ce domaine-là aux gens pour beaucoup
de
maladies.
Christophe Sellier, évidemment, en tant que gastro-entérologue, la maladie cœliaque, alors ça pour le coup, c'est vraiment reconnu comme étant une maladie en lien tout à fait direct avec le gluten. Est-ce que d'abord, beaucoup de patients aujourd'hui, depuis quelques années, vous avez observé ce phénomène, viennent en se posant la question d'une sensibilité tout simplement, là on ne parle même pas d'allergie ou de maladie cœliaque au gluten?
Alors, il y a effectivement actuellement beaucoup de gens qui souffrent de troubles digestifs qui peuvent rentrer soit dans le cadre de ce qu'on appelle le côlon irritable, la colopathie fonctionnelle, qui se posent la question, sont-ils sensibles au gluten ou ont-ils une maladie cœliaque? Alors la maladie cœliaque, c'est une vraie maladie, c'est sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, qui détruit progressivement les intestins et qui peut se compliquer à long terme de déminéralisation des os, voire de cancer. Donc c'est très important de faire le diagnostic au départ, parce que le diagnostic de maladie cœliaque, ça impacte sur la vie future, et ces patients-là doivent impérativement suivre un régime sans gluten strict.
Ouais.
Et on a des outils très clairs pour faire le diagnostic, c'est des prises de sang et éventuellement des biopsies dans l'intestin. Donc ces patients, c'est très important de pouvoir les diagnostiquer parce que eux, c'est vital pour eux de suivre un régime sans gluten.
Oui.
Et à côté de ça, il y a cette hypersensibilité au gluten, où là, effectivement, certains patients rapportent être améliorés par le régime sans gluten, mais ils n'ont aucun signe de maladie cœliaque, et le régime sans gluten est probablement moins vital, et on ne connaît pas actuellement les mécanismes qui joueraient, oui, s'ils jouent, et même si c'est le gluten qui serait responsable de leur trouble.
Donc ça veut dire qu'en dehors de la maladie cœliaque, vous avez bien du mal à pouvoir donner une réponse aux personnes qui avancent que le gluten est la cause de leurs problèmes.
Bah, on a bien du mal en théorie, on a surtout du mal à les diagnostiquer de façon formelle, hein, puisqu'on n'a pas d'outils comme on a dans la maladie cœliaque, on a des prises de sang qui permettent de faire le diagnostic, des prélèvements dans l'intestin. Par contre, chez les hypersensibles au gluten, c'est juste le fait de supprimer le gluten qui les améliore et de le réintroduire qui redéclenche les symptômes. Et on ne connaît pas les mécanismes, mais on est en train de travailler sur les mécanismes.
Élise demande sur franceinter.fr la différence justement entre l'allergie au gluten et la sensibilité au gluten, et comment est-ce qu'on peut le dépister l'un et l'autre?
Alors, c'est deux choses complètement différentes. L'allergie, c'est pour ça qu'on mélange un petit peu toujours. L'allergie, c'est des choses immédiates, hein, c'est des réactions immédiates. On peut faire des allergies, mais on peut faire des allergies au kiwi, à autre chose, d'allergies au blé.
Il y en a au gluten. Hein.
Et au gluten, c'est assez rare. L'hypersensibilité, c'est plutôt des symptômes qui sont induits de façon chronique par la consommation de gluten. Mmh. Et la maladie cœliaque qu'on dit intolérance, c'est une destruction progressive de l'intestin par le gluten, du fait de mécanismes immunologiques mis en place par la consommation chez des gens qui sont prédisposés génétiquement.
Et comment on peut le savoir? Alors, il y a des tests ou pas aujourd'hui qui existent pour les personnes qui se poseraient la question? Parce que c'est tout le problème de l'hypersensibilité qu'on ignore. Hein,
oui,
finalement, c'est ce que vous dites, hein, Julien Vénesson. On serait quoi, 10% à être sensible au gluten sans forcément le savoir?
On n'a pas encore de chiffres parce qu'en fait, la médecine a démontré l'existence de cette maladie que depuis peu. Donc, on n'a pas de chiffres suffisamment fiables pour pouvoir dire s'il y a 10, 20, 30, 40% de gens concernés. Donc, actuellement, les prévisions, c'est entre 10 et 40%. Mais ce qui est intéressant,
c'est énorme, entre 10 et 40%, mais c'est incroyable quand même,
Ce qui est intéressant dans ce que dit le professeur Cellier, c'est qu'il parle de la maladie cœliaque comme étant une vraie maladie. Donc aujourd'hui, les gens qui sont sensibles ne sont pas considérés comme des vrais malades, alors qu'ils ont des vrais symptômes, des vrais problèmes qui peuvent être résolus par l'éviction du gluten.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques pour l'instant suffisamment solides pour pouvoir faire en sorte qu'on parle de maladie, précisément.
Si, aujourd'hui, les gastro-entérologues...
Ce que je dis, c'est que pour la maladie cœliaque, on a des outils pour poser le diagnostic de façon objective, alors que pour l'hypersensibilité...
Ça n'existe
pas. Mais ça n'empêche que c'est une maladie tout de même, une vraie maladie.
On n'a ni les outils pour faire le diagnostic, ni on a étudié pourquoi ça induisait, ni même dans certains cas, on sait si c'est vraiment gluten ou d'autres mécanismes qui sont mis en place. En
fait. Mais on a tout de même beaucoup de maladies dans lesquelles on n'a pas de possibilité de faire un diagnostic précis. Ne serait-ce que la dépression, par exemple, c'est une maladie très grave, on ne peut pas faire une prise de sang et vous dire vous avez la dépression.
Ouais.
Et ben, la sensibilité au gluten, c'est la même chose. Il faut quand même le prendre au sérieux.
Christian Rémézy, de quoi parle-t-on, s'il vous plaît, lorsqu'on évoque le gluten dans un grain de blé? Alors, qu'est-ce que c'est exactement, déjà, pour comprendre aussi comment ça fonctionne, puisqu'on parle de porosité de l'intestin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
D'abord, que le gluten est un terme bien trop général. Il existe beaucoup de gluten selon les espèces et les céréales. Et en plus, le gluten est composé de centaines de molécules différentes. Donc déjà, le premier biais, c'est de mettre tous les aliments, tous les gluten dans le même sac. Mmh. Ça, c'est l'erreur majeure. Et ce qui fait que ça ensuite ça entraîne une phobie. Et je dirais qu'il faudrait aller pas nécessairement vers moins de gluten, mais vers mieux de gluten. C'est-à-dire un gluten qui soit plus digestible, plus adapté à notre physiologie intestinale.
Qu'est-ce que c'est alors exactement, Christian Rémézy, le gluten dans le grain de blé, par exemple, puisqu'on parle
alors,
principalement
le terme gluten
du blé?
Ça sert surtout à désigner les protéines de réserve du blé. Mmh. On en trouve aussi dans le seigle et dans diverses céréales. Bon, les graines de maïs, de riz, d'orge, d'avoine contiennent des protéines de réserve proches en composition de celles du blé, mais elles n'ont pas les mêmes propriétés viscoélastiques et surtout, elles n'ont pas les mêmes propriétés
allergique.
Voilà. C'est très grave d'utiliser un mot magique, gluten, pour désigner des choses très, très différentes.
Mmh. Et alors, ça a quel effet, justement, sur notre physiologie, sur notre intestin en particulier? Alors, comment ça fonctionne?
Pour comprendre les problèmes, il faut retourner à cette famille des protéines. Ce sont des prolamines, donc des protéines relativement hydrophobes qui auraient une certaine difficulté à être digéré par les enzymes pancréatique en particulier. Et donc, ça veut dire que c'est l'intestin qui doit, parachever le...
Donc, il prend le relais, en fait. Hein. Ouais.
Et donc, si ce travail d'hydrolyse n'est pas parfait, il y a des risques de passage des peptides dans la cellule intestinale, et c'est ce qui peut provoquer soit la maladie cœliaque, c'est des sujets qui sont prédisposés génétiquement, soit l'hypersensibilité, s'il s'agit d'un syndrome réellement dû au gluten. Mais attention, dans l'hypersensibilité au gluten, il y a, elle est relativement semblable de celle de l'intestin irritable. Et puis, le problème vient peut-être du fait que l'intestin de nos contemporains est devenu trop perméable.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que lorsqu'on a une alimentation trop raffinée, trop riche en produits transformés, l'intestin, l'épithélium intestinal devient moins jointif à la longue. Et donc, il est nécessaire pour la santé d'avoir un intestin relativement imperméable aux molécules alimentaires.
Et justement, le gluten a pour effet une perméabilité de l'intestin ?
Serait une goutte d'eau, c'est-à-dire que sur un intestin qui serait devenu trop perméable à la suite d'une alimentation déséquilibrée et de long terme, un intestin devenu trop perméable deviendrait sensible au gluten, et le gluten lui-même pourrait ensuite provoquer, accroître cette perméabilité intestinale. Donc il se développe une sorte de cercle vicieux qui serait responsable de cette hypersensibilité.
Christophe Cellier, vous êtes d'accord avec ça? L'intestin de l'homme moderne a beaucoup changé?
Alors, ce qu'on sait, c'est par exemple les maladies auto-immunes, comme la maladie cœliaque qui est une maladie de Mène, se sont plus développées du fait chez les gens qui disposent des frigos, peut-être avec le fait l'excès de propreté entre guillemets intestinale qui a peut-être rendu, comme le suggère monsieur, l'intestin plus perméable ou plus fragile aux différentes bactéries venant de l'extérieur. L'intolérance au gluten, maladie cœliaque, c'est un peptide très spécifique, ça c'est bien démontré, qui est contenu dans le gluten, qui va induire une réaction immunologique chez des patients qui sont prédisposés. C'est-à-dire que après le passage de cette protéine du gluten, il va se déclencher une réaction immunitaire, immunologique, qui va progressivement détruire les intestins.
Et on en trouve dans quoi alors le gluten, Julien Vénesson, aujourd'hui ?
Si je peux peut-être me permettre de compléter la réponse de professeur Cellier, il y a énormément d'aliments qui peuvent avoir un impact sur la perméabilité intestinale. Et puis aussi des bactéries. Par exemple, tout simplement, quand vous avez une gastro-entérite, vous allez avoir une augmentation de la perméabilité qui provoque une diarrhée. Donc, tous ces éléments-là peuvent avoir un impact sur la santé. Mais dans le cas du blé, on a quelques études qui semblent montrer que les blés les plus anciens qu'on mangeait au tout début de l'agriculture, donc il y a environ 10 000 ans, ne contenaient pas le même gluten, comme le faisait remarquer M. Remézy. Et ce gluten-là ne semble pas induire les mêmes réactions d'allergie et d'intolérance, même chez les personnes qui sont aujourd'hui sensibles ou intolérantes. Donc ça, c'est une des raisons qui m'ont poussé à faire mon enquête. Ce serait que peut-être les mutations génétiques qu'on a fait subir, nous, au blé, ont modifié le gluten pour le rendre encore plus allergisant. Mmh. Et à charge, on a l'augmentation constante de l'intolérance au gluten qui a été multipliée par 6 depuis environ 50 ans.
Christian Remézy, alors évidemment, on pense au blé, au pain immédiatement, mais on le trouve dans quoi le gluten ?
Soit le gluten, on le trouve dans toutes les céréales. Simplement, du gluten analogue à celui du blé, on en trouve un peu dans le seigle, mais bon, c'est pas du tout le même gluten, voilà. Et concernant la maladie cœliaque, il faut surtout supprimer le gluten de blé, de seigle, d'orge. La question de l'avoine est beaucoup plus discutée, mais le maïs et le riz sont tolérés.
Oui, Christophe Cellier, vous confirmez évidemment. Ça ressemble à quoi donc le régime des personnes avec une maladie cœliaque ?
Blé, seigle, orge. Alors on supprime le pain, mais le problème et tout ce qui est composant du blé, du seigle, de l'orge. L'avoine est généralement autorisée, enfin, en tout cas chez tous les cœliaques suivis, la majorité peuvent le tolérer si l'avoine n'est pas contaminée dans sa production. Alors c'est un régime qui est quand même très contraignant, même si on peut le dire, parce que d'abord on en trouve un peu partout.
Oui, c'est ça, parce que le gluten gluten, on en trouve par exemple dans le jambon blanc, voilà, dans certains jambons blancs.
On en trouve dans tous les process de fabrication industrielle. Mm-hmm. Et pour les gens qui doivent le suivre, en tout cas les patients que je suis, cœliaques, qui ont un impératif de le suivre, mm-hmm. eux, ils se trouvent confrontés à des problèmes de socialisation, c'est-à-dire dans les cantines, dans les restaurants. Et en France, on a probablement un déficit de la connaissance du régime sans gluten dans la plupart des restaurants. Et c'est très complexe pour eux.
Estelle nous dit ceci, je suis malade cœliaque. Que pensent vos intervenants sur les mentions traces de gluten que l'on trouve de plus en plus sur les étiquettes des produits? Les intolérants peuvent-ils consommer ces produits ou les fabricants apportent-ils uniquement ces mentions pour se protéger?
Alors, j'imagine qu'il y a un peu des deux. En théorie, chez les patients atteints de maladies cœliaques, ils doivent bénéficier. Il y a le logo, par exemple, de l'Aviag, l'épi de blé, qui garantit.
On voit beaucoup, effectivement.
La garantie sans gluten. Alors, traces de gluten, généralement, ce n'est pas des produits qui ne contiennent pas de gluten.
Oui. Combien de personnes sont diagnostiquées cœliaques, justement, aujourd'hui, dans le monde?
Alors, on estime, dans les études épidémiologiques, à partir des tests sanguins, environ 1%, entre 0,5% à 2% de la population. C'est à peu près une répartition quasiment mondiale, hein, sauf peut-être en Asie, et encore on est en train de le trouver en Asie. Et on s'aperçoit qu'en fait seulement 20% de ces patients seraient réellement diagnostiqués en temps et en heure. Il y a un gros retard au diagnostic chez ces patients.
Michel nous dit ceci, depuis 2 ans, je fais un régime sans gluten, mes troubles intestinaux ont presque disparu. Mon gastro-entérologue vient de me dire que c'est une erreur et que c'est un régime pauvre en FODMAPS que je devrais faire. C'est quoi les FODMAPS, hein?
Alors, les FODMAPS, ce sont des petits sucres fermentissibles, un peu, qui sont en partie supprimés en même temps que le régime sans gluten, mais pas que, et qui ont été imputés comme étant responsables de certains troubles chez les gens qui se pensaient hypersensibles au gluten. C'est une étude australienne qui a fait les gens diagnostiquer hypersensibles au gluten. On leur a enlevé le gluten et les FODMAPS, et on a réintroduit juste le gluten sans les FODMAPS, et ils n'ont pas redéveloppé leurs symptômes. C'est une étude récente à publier dans Gastroentérologie en 2013. Donc c'est peut-être une autre piste pour expliquer l'hypersensibilité.
Mais uniquement, pour expliquer uniquement les symptômes digestifs.
Oui.
Parce que pour les symptômes généraux, ça n'explique pas les symptômes généraux.
C'est des patients qui étaient sélectionnés sur les symptômes digestifs au départ.
Ouais, Christian Remézy, sur les FODMAPS.
Je ne crois pas du tout à l'hypothèse des FODMAPS, parce que ces glucides indigestibles, on en trouve dans les fruits, les légumes, l'artichaut, enfin, dans les fruits oligosaccharides qu'utilise l'industrie agroalimentaire. Je vois que le blé, certes, contient un peu de ces fructo oligosaccharides, mais donc c'est vraiment pas l'aliment qui est le principal vecteur de ce type de glucides. Donc rien à voir avec le syndrome du gluten. Franchement, à ce moment-là, on se met à tout confondre.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion et les messages des auditeurs nombreux sur le site de La Tête au Carré. Continue to flow, heavenly showers, so warm in July. Questions are resting, we don't ask why. We don't like nothing, we have each other. You are much more than a friend and a lover. Heavenly showers, so warm in July. We feel like children once again, you and I. You and I.
heavenly showers, so warm in July. Questions are resting, we don't ask why.
Et c'est Lisa Ekdahl à l'instant avec Heavenly Shower sur France Inter, une tête au carré autour de la question du gluten qui visiblement intéresse beaucoup de monde, les consommateurs et les auditeurs de l'émission. Julien Vénesson, vous êtes donc l'auteur de ce livre Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Et puis à vos côtés, donc Christophe Sellier, gastro-entérologue et par téléphone depuis Toulouse, le nutritionniste et directeur de recherche à l'INRA, Christian Rémézy. Christian Rémézy, justement, il y a beaucoup de courriels d'auditeurs nous demandant s'il existe des études scientifiques fiables sur cette question. Alors là, vraiment de la sensibilité au gluten. Il faut bien distinguer les choses. On ne parle plus de maladie cœliaque, mais de sensibilité au gluten. Qu'est-ce que la science vraiment peut nous en dire aujourd'hui? C'est David qui nous dit ceci. Il faut insister sur tous les biais de constatation empirique qui résultent d'observations qui ne respectent en rien la démarche scientifique. Est-ce qu'il existe des études sérieuses se rapprochant au maximum des conditions de la rigueur scientifique?
Il n'existe pas suffisamment d'études, mais je crois que ça, vu la demande sociétale, dans 2-3 ans, on va avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc je voudrais ajouter quelque chose. Non seulement il existe des gluten, mais il existe aussi des aliments très différents. Par exemple, le problème de la digestibilité du gluten dans le pain n'est pas du tout le même que dans celui des pâtes alimentaires.
C'est-à-dire
les pâtes alimentaires qui sont préparées à ébullition, en milieu très hydraté, évidemment qu'on va avoir une digestibilité facilitée du gluten. Donc, il y a plein de choses à préciser. Si on reste sur ce terme trop général de gluten, et en ne précisant pas de quel aliment on parle, on ne peut pas faire des sciences.
Ça nous intéresse justement. Alors, qu'est-ce que vous laissez entendre par là? Que le blé du pain est plus problématique que le blé qu'on trouve à l'intérieur des pâtes, par exemple?
C'est pas le blé. Enfin, théoriquement, les pâtes sont faites avec du blé dur et le pain avec du blé tendre. Mais la question du pain est différente de celle des pâtes. Dans le pain, on forme un film viscoélastique très tenace, d'autant qu'on a sélectionné des variétés de blé avec des valeurs boulangères très élevées, contenant des prolamines de haut poids moléculaire. Et donc, ça rend plus difficile la digestibilité du gluten. De plus, les techniques de panification ont évolué. On ne panifie pas suffisamment au levain, mais surtout à la levure. Et donc, seule la panification au levain était capable de couper déjà le gluten. Ce qui, bien sûr, améliorait sa digestibilité. On a développé technologie pour faire des baguettes, mais pas nécessairement pour atteindre des objectifs nutritionnels. Il peut se poser, ça ne veut pas dire qu'il faut généraliser, mais il peut y avoir un problème de digestibilité du gluten dans le pain qu'on ne va pas retrouver dans les pâtes alimentaires, parce que les pâtes alimentaires sont faites avec du blé dur, donc ce n'est pas le même gluten, et d'autre part, sont cuits bien différemment de la façon de cuire le pain.
Christian Rémézy, quand on voit sur un paquet de farine marqué T60 ou T80, ça correspond à quoi justement?
Oui, alors ça n'a aucun rapport en soi avec le gluten. Par contre, c'est un rapport direct avec la qualité de la farine. Mm-hmm. C'est-à-dire que le type, c'est la teneur de minéraux par 100 grammes de la farine. Or, il y a une corrélation stricte entre la teneur de minéraux et celle des fibres, des vitamines. Et bien sûr, il faudrait pouvoir consommer au moins un pain bi avec un type suffisamment élevé. Or, le public ne sait pas que, justement, une farine de type 45, par exemple, pâtissière, est tout à fait dépourvue de fibres, de minéraux et de vitamines.
On a justement un message de Chantal. J'ai une intolérance au gluten depuis 1963. Je commence à saturer d'entendre tous ces discours sur le gluten et le lait, car tous ces gens sont dogmatiques. Pour ma part, je suis boulangère, pâtissière, traiteur sans gluten. Et à part le mix d'un ami meunier, je n'utilise que de la farine de riz, de maïs, de sarrasin, avec des résultats dignes du meilleur pâtissier après une formation chez le nôtre, afin de tenir les meilleures bases. Donc on peut remplacer facilement, Christophe Sellier?
Bah, au niveau alimentaire, on peut tout à fait se passer du gluten si on a une alimentation équilibrée par ailleurs. Le principal problème, je dirais, c'est dans la fabrication du pain où on n'a pas ce côté, parce que le gluten, comme son nom l'indique, c'est glou, c'est le côté
visqueux,
un peu pâteux, aéré du pain qu'on obtient difficilement dans le pain sans gluten. C'est pour ça que peut-être que les pays nordiques ou anglo-saxons, ils ont moins de mal à manger sans gluten, puisqu'ils ont l'habitude un peu d'avoir des pains un peu noirs, un peu fermes, quoi. Alors qu'en France, on est plus réfractaire au pain peu aéré. Quoi.
Ouais. Julien Vénesson, comment vous avez travaillé justement sur cette question de la sensibilité au gluten? Vous, c'était vraiment le parti pris un peu du livre, hein, quand même. C'était d'évoquer ce pan un peu moins connu, en tout cas, du rapport avec le gluten.
Oui, et puis aussi évoquer un petit peu le pan moins connu des blés. Tout à l'heure, on parlait des pâtes et du pain. Les pâtes, c'est effectivement du blé dur. C'est un blé qui a 28 chromosomes et le blé tendre qu'il y a dans le pain en contient 42. C'est pas du tout le même blé. Il y a eu énormément d'hybridation, de changements qui ont été faits sur ces blés-là. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça a modifié le gluten. Alors on parlait du poids moléculaire, mais ça peut avoir modifié sa structure, son allergénicité. Et ça, c'est ce que je suggère effectivement dans mon enquête. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question d'ailleurs.
Donc sur la sensibilité au gluten, c'est ça qui vous intéressait vous, au départ?
Oui, alors la sensibilité, de
vous dites
de
qu'il y a entre 10 et même 40% de personnes qui seraient sensibles sans le savoir.
Alors comme je disais, les chiffres, c'est vraiment des estimations. Parce que comme...
Oui, c'est à la louche. Hein.
C'est très très à la louche. On n'a pas du tout d'études depuis plusieurs années de grande échelle pour pouvoir dire combien de personnes sont touchées. Mm-hmm. On a réussi à mettre en évidence l'existence de cette maladie il y a 4-5 ans. Dans des études en double aveugle, dans lesquelles on a testé l'effet d'une supplémentation de gluten à certaines personnes, on l'a enlevé, on a vu qu'en réintroduisant, les symptômes revenaient, etc. Ça a été reproduit par plusieurs équipes, en Australie, aux États-Unis. Donc on sait que cette maladie, elle existe. On sait que ce n'est pas une affabulation. Mais voilà, pour l'instant, on peut pas dire exactement quel pourcentage de personnes est touché.
Christophe Cellier, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent en arrêtant de prendre du gluten, je me sens tellement mieux, j'ai tout un tas de symptômes qui disparaissent. J'imagine que vous avez été confronté régulièrement à ce type de discours.
Très fréquemment. Alors, moi, je leur réponds de façon très, très pragmatique. Si vous allez mieux, je dirais, j'en fais une mauvaise blague, c'est ça ne mange pas de pain, donc vous pouvez continuer.
Elle est très bonne, effectivement.
Mais néanmoins, après, c'est savoir le danger, c'est est-ce qu'on a une authentique maladie cœliaque sous-jacente ou une hypersensibilité. Et dans ce cas-là, si on a commencé déjà le régime sans gluten, c'est compliqué d'arriver au diagnostic. Alors que c'est relativement important d'avoir un diagnostic ferme au départ, parce que ça a un impact sur le suivi, le type de suivi, la surveillance, le risque de cancer éventuellement, de diminution des os, le risque dans la famille. Pour l'instant, l'hypersensibilité au gluten, on ne sait pas, on n'a pas d'outil diagnostique pour l'authentifier, ni on ne sait pas quel suivi il faut faire.
Sonia nous dit, encore peu de professionnels de santé savent que 50% des cœliaques sont également sensibles aux produits laitiers. C'est une réalité ou pas?
L'hypersensibilité, enfin l'intolérance au lactose, elle est vraie au début de la maladie cœliaque parce qu'on a une atrophie villosité qui détruit les entérocytes et on n'a plus de lactase dans l'intestin pour absorber correctement le lait. Mais normalement, après, ça se corrige dans la majorité des cas.
Ouais. Christian Rémézy, il y a beaucoup de questions des auditeurs sur la question du glyphosate Roundup pour traiter les mauvaises herbes dans le blé. Il y a énormément de courriels dans ce sens. Est-ce qu'il y a un lien? Le syndrome du gluten, demande par exemple Pascal, est-il dû à l'utilisation du glyphosate? Même chose pour Pierre, hypersensible au gluten ou au Roundup. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Alors, je n'en pense rien du tout. Je connais cette hypothèse, mais ça me paraît tellement éloigné du sujet du gluten, que tellement peu spécifique de ce sujet.
Mmh. Julien, mais pourtant, ça ressort beaucoup dans les courriels. Julien Vénesson, vous avez...
Oui, j'ai vu passer aussi cette étude.
Avoir d'opinion sur ce sujet.
Julien Vénesson a une opinion apparemment.
Oui, moi j'ai une opinion, c'est que tout simplement, les blés issus de l'agriculture biologique ne sont pas arrosés du glyphosate. Donc si c'était ça le problème, les blés issus de l'agriculture biologique ne poseraient pas de problème ni aux malades cœliaques ni aux sensibles, et ils posent absolument autant de problèmes. Donc pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de lien avec ce produit de la société Monsanto qui est effectivement beaucoup décrié, mais pour le coup...
Gaël nous dit ceci, étant allergique au gluten depuis mon enfant, je suis admiratif des gens qui s'infligent cela sans grosse raison à part leur digestion. Comme tout aliment, il suffit seulement de le consommer avec modération. Christophe Cellier.
C'est sûr que, ayant le retour des patients cœliaques qui doivent impérativement suivre un régime sans gluten, ceux-là souffrent. Et donc, un rêve, c'est d'élargir leur régime. Parce que, quelque part, c'est quand même compliqué tous les jours à suivre en société. Et donc, si on n'a pas de raison authentique de suivre un régime sans gluten, je ne vois pas pourquoi on se l'infligerait au niveau sociétal.
Moi, je pense quand même qu'à l'heure actuelle, si on essaye de bien manger, c'est-à-dire prendre soin de sa santé, gluten mis à part, ça veut dire manger moins de produits transformés, ça veut dire manger moins salé, ça veut dire manger moins gras, etc. Et c'est difficile dans la société d'aujourd'hui, parce que quand vous allez dans un supermarché, quand vous allez au restaurant, ce n'est pas très sain ce qu'on vous présente. Donc si vous voulez manger sainement ou sans gluten, c'est pareil, ça demande de faire des efforts, d'ouvrir un petit peu ses perspectives. Et il y a beaucoup de gens pour qui ça n'est pas très difficile. C'est une question d'habitude. Hein. On mange beaucoup de blé en France. Il y a des pays où on mange beaucoup moins de blé. Ouais.
Et les produits sans gluten, alors justement, parce qu'il y a tout un business énorme.
Alors il y a un business des produits sans gluten et ce n'est pas forcément très intéressant parce que là encore, ce sont des produits industriels. Ils essayent d'améliorer la qualité nutritionnelle de ces produits-là, mais c'est quand même riche en amidon. C'est des farines souvent donc pauvres en fibres. Alors ils essayent de rajouter des fibres maintenant. Ça coûte cher également. Il y a des aliments extrêmement intéressants, naturellement sans gluten, qu'on peut apprendre à découvrir. Le sarrasin, les lentilles, la patate douce, et nutritionnellement, qui sont beaucoup plus intéressants que les produits qui contiennent du gluten. Si vous comparez le sarrasin avec la baguette de pain, par exemple, vous avez 100 fois plus de sodium dans la baguette de pain. Le sodium, c'est un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Vous avez 3 fois plus de magnésium dans le sarrasin que dans la baguette de pain. Donc voilà, si on veut manger mieux, on peut simplement manger moins de gluten aussi. Et
Allez, Christophe Sellier pour terminer, et puis retour à Christian Rémézy pour conclure.
Effectivement, les produits sans gluten sont chers, ce qui pose un problème aux patients. Et en plus, un vrai business se développe non seulement sur les produits sans gluten, mais sur des tests diagnostiques d'intolérance un petit peu...
À ces produits
au gluten ou aux intolérances alimentaires un peu fumeuses. Mm-hmm. Et donc, il y a un business. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment le point sur ce problème et essayer de trouver qu'est-ce qui est impliqué, quels sont les mécanismes et d'arriver à garder la tête froide sans affoler la terre entière et en soignant ceux qui méritent d'être soignés de façon impérative.
Christian Rémézy, très vite, parce qu'il nous reste à peine une minute, votre message pour conclure sur la modération précisément.
Mieux en consommant davantage de crudités, de fruits et légumes et en choisissant ces produits céréaliers, par exemple des pâtes alimentaires ou du pain au levain. Donc il y a des solutions tout à fait positives sans avoir à inquiéter la population. Voilà.
Et sur ces produits sans gluten, vous en pensez quoi? Quelle est votre religion là-dessus?
Sans gluten sont encore des produits très transformés avec beaucoup trop d'additifs, donc c'est pas tellement positif.
Alors je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps qu'il faut pas inquiéter la population, sachant qu'effectivement on sait que beaucoup de personnes qui sont intolérantes ne sont pas diagnostiquées. Il faut se poser des questions, au contraire.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Julien Vénesson, en tout cas pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus, gluten, comment le blé moderne nous intoxique, c'est aux éditions Thierry Soucard. Merci Christophe Sellier et Christian Rémézy pour vos propos cet après-midi. Et merci aux auditeurs pour les nombreux messages qui sont arrivés. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre avec les commentaires sur franceinter.fr. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Beside me, I made my curtain.
life is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem.
Sisters of Mercy, un titre de 67 pour fêter aujourd'hui les 80 ans de Leonard Cohen et la sortie en France aujourd'hui même de son nouvel album Popular Problems, journée spéciale Leonard Cohen sur France Inter. Et on reprend la semaine avec nos bonnes habitudes et le test quiz de la tête au carré. Florence Porcel est à mes côtés. Ça va,
toujours,
Florence?
Toujours, mais très bien. Et vous, Mathieu?
Ça va bien. Et on accueille Marc et Émilie aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Marc, vous habitez à Chelles, en Seine-et-Marne.
Oui, tout à fait.
Vous êtes le geek de l'émission aujourd'hui. Hein, qu'est-ce que vous faites?
Oui, je suppose.
Oui, c'est bien sûr.
J'ai des infos. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille dans l'informatique.
Ingénieur informatique, c'est bien ça dont il s'agit.
Voilà,
hein.
Exactement.
Voilà. Émilie, vous êtes à Besançon, donc dans le Doubs.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes sage-femme.
Voilà.
Alors, on joue aujourd'hui avec quel partenaire et tout au long de la semaine, Florence?
Avec les éditions Flammarion. Et nous jouons pour vous offrir le beau livre « Science année après année ». Et c'est évidemment le joueur qui aura accumulé le plus de points qui remportera ce cadeau.
Marc et Émilie, on va démarrer avec la question d'actualité. Nous n'avons pas de son à vous faire entendre aujourd'hui, mais je peux vous dire que dans une étude parue dans la revue Journal of Comparative Psychology, des chercheurs espagnols ont confirmé le cannibalisme d'une créature aquatique bien précise. Attention, ma question arrive, vous aurez 30 secondes pour y répondre. Quelle est cette espèce qui mange donc ses congénères? C'est parti.
Pas une pieuvre?
Mais wow. Si.
Et voilà.
Bon, voilà.
Rapide, efficace. C'est effectivement une pieuvre. Marc, vous en aviez entendu parler dans l'actualité récente?
Oui, je crois que j'ai dû voir ça dans I Fucking Love Science.
Absolument.
Ah bah, voilà, oui. Il s'agit en fait des Octopus vulgaris, hein, très précisément. C'est les pieuvres les plus communes, qui sont donc cannibales. Alors les chercheurs le soupçonnaient depuis un moment, puisqu'ils avaient retrouvé des morceaux partiellement digérés de pieuvres dans l'estomac d'autres pieuvres de la même espèce. Mais ils en sont désormais sûrs, puisqu'ils ont filmé 3 manifestations de cannibalisme. Et ils l'expliquent par une recherche optimale d'énergie. Les pieuvres sont plus riches en protéines que les moules, par exemple, et elles demandent moins d'efforts pour les attraper.
Voilà, les pieuvres sont donc cannibales. Une info importante pour démarrer ensemble cette semaine, Marc et Émilie.
Et ça fait 10 points pour Marc.
Voici des questions de rapidité. Vous connaissez le principe là aussi, cette question, avec un ordre croissant de difficulté. Donc la dernière question sera la plus difficile logiquement, mais quoique...
Et je rappelle que si une question pose problème, vous pouvez passer à la suivante, il suffit de nous le dire.
Vous êtes prêts, Marc et Émilie?
Oui.
Allez, on lance le chrono, 1 minute 30. Première question, quel organe permet notamment aux poissons de respirer sous l'eau?
Les branchies,
Émilie, bonne réponse. Quel scientifique russe a découvert le réflexe conditionnel grâce à des expériences avec un chien? Pavlov, Émilie. Quel célèbre astronome américain est à l'origine de la série documentaire Cosmos?
Carl Sagan
pour Marc, très bonne réponse. Comment appelle-t-on le chlorure de sodium dans la vie de tous les jours?
C'est le
sel, Marc a répondu le plus vite. Quel organe appelle-t-on le cimetière des globules rouges?
Non.
Alors, quel organe appelle-t-on le cimetière des globules rouges? Vous voulez qu'on passe à la question suivante? Non. Allez, on passe à la 6e question. Quel est l'autre nom de l'anti-électron?
Le boson?
Non.
Le neutrino?
Non. L'anti-électron, son autre nom?
Le proton?
Non, ça commence par la même lettre.
Et ça finit pareil.
Allez, dernière question. Quel est l'auteur du livre Triste Tropique, paru en 1955?
Aucune idée.
Pardon, Émilie?
Lévi-Strauss.
Lévi-Strauss, absolument. Quel organe appelle-t-on le cimetière des globules rouges? Je reviens sur la cinquième question.
Le pancréas?
Non, mais voilà, on tourne autour.
Hein.
Oui. Non. Quel est l'autre nom de l'anti-électron? Allez, qui commence donc par un P et qui finit en on?
Je sais pas.
C'était le positron.
Ah, le positron.
Eh oui. Et quel est l'organe appelé le cimetière des globules rouges?
Alors ça, c'était la rate.
C'est la rate, effectivement. On va faire le compte des points.
Alors,
Florence.
Nous avons 15 points pour Émilie dans cette manche et 10 pour Marc. Mais Marc est toujours un petit peu en avance puisqu'il a eu les 10 points à la première manche.
Donc ça nous fait quoi au total?
Ça nous fait 20 contre 15.
Ah voilà, donc voilà. Les additions étant faites. Marc, 20 points. Émilie, 15 points. Voilà, c'est le dernier moment de notre jeu avec le mot mystère. Vous jouez l'un contre l'autre. On vous a donc donné hors antenne un mot mystère à faire deviner à votre adversaire. Florence, on va commencer avec qui?
Avec Émilie, allez, j'ai envie aujourd'hui.
Émilie, 45 secondes pour faire deviner votre mot à Marc. C'est parti.
Alors, il s'agit d'un... C'est un mouvement de pensée plutôt philosophique, en fait, qui pense que l'humain peut être amélioré par les technologies.
Par le...
Par les technologies.
L'idée, c'est de rendre le corps plus fort et plus performant grâce aux technologies.
C'est un mouvement dont on entend beaucoup parler, qui fait parfois même fantasmer.
La cybernétique?
Non. Pensez à l'être humain et aux technologies.
L'être humain augmenté.
On fait tout pour vous aider, Marc. Hein.
L'humain augmenté.
Ouais. Google s'y intéresse beaucoup.
La science-fiction également.
Ouais.
Ah, j'en ai...
C'était pas facile. Hein.
Ouais, le transhumanisme, hein, Marc.
Enfin, j'aurais pas su. Bon,
Alors, maintenant, c'est à votre tour, Marc, de faire découvrir le mot mystère à Émilie. Et même chose, nous vous offrons généreusement 45 secondes. Nous lançons le chrono, c'est parti.
Alors, il s'agit d'une hormone sécrétée par le pancréas.
L'insuline?
Ça, hein, la sage-femme, elle connaît, évidemment.
Bah, du coup, Émilie, vous reprenez la main et vous avez gagné le jeu, puisque vous avez 25 points contre 20 pour Marc, qui n'a pas deviné le mot mystère.
Vous avez retourné la situation, Émilie.
Exactement. Oui, en même temps, c'était difficile, le transhumanisme.
Vous ne vous êtes pas laissé impressionner par notre ingénieur informatique. Alors, qu'est-ce que gagne Émilie, Florence?
Eh bien, vous repartez donc avec le beau livre « Science, année après année » des éditions Flammarion, qui sera d'ailleurs disponible en librairie à partir de ce mercredi.
Bon, ce sont tous les événements importants, c'est ça?
Oui, de la science, hein, qui sont résumés dans ce beau livre qui est vraiment magnifique.
Et qui est préfacé par un de vos scientifiques préférés.
Non, c'est pas celui-là.
Ah, c'est pas celui-là.
Non, c'est pas celui-là.
Ah bon, on en parlera une autre fois, alors.
Ouais, voilà.
C'est pas grave, je me sens les pinceaux, mais vous verrez, le livre est très bien quand même.
Le livre est très beau. Bah, je m'en sers pour faire les questions, alors forcément, il est très utile.
Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux, Marc et Émilie. Passez une très très bonne journée.
Merci pour l'émission.
Merci d'avoir joué. Et puis franceinter.fr pour accueillir de nouveaux candidats.
Effectivement, vous pouvez vous y inscrire.
À bientôt, Florence.
À bientôt.
Fabrice Drouel vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Affaire sensible dans quelques minutes. Quel sera le thème aujourd'hui?
L'affaire Elfe second volé.
Ah oui, je vais vous dire, on en a déjà parlé.
Autrement dit, les affaires dans l'affaire Roland Dumas, Christine de Vieux-Joncourt, des statuettes, des chaussures.
Un nouvel invité également.
Et 8 ans d'instruction menée par la juge Jolie, qui est notre invitée, la juge Eva Jolie, qui est maintenant députée européenne Europe Écologie Les Verts.
Et ce sera juste après les infos. Bonne journée Fabrice Drouel.
Merci.
À plus tard.